pour cette séquence hebdomadaire à la Une d'Akadem, Elisheva Kotfarstein. Bonjour.
Bonjour Elsa.
Et à la Une d'Akadem et IRTJ cette semaine, une émission spéciale que vous avez faite avec Laurence Goldman, notamment consacrée bien sûr à la panthéonisation de Marc Bloch.
Bien sûr, comme vous le savez, aujourd'hui a lieu cette panthéonisation de Marc Bloch. Et à cette occasion, nous avons réalisé, avec Laurence Goldman, une longue émission consacrée à la judéité de l'historien. Une longue émission car elle se déroule en plusieurs parties. Dans la première, nous avons donné la parole à l'archiviste Yann Potin, en charge de l'exposition qui s'ouvre au Panthéon. Et à l'historien Pierre Savy, spécialiste de l'histoire des Juifs, qui a travaillé sur les archives personnelles de Marc Bloch. Cette première partie, nos auditeurs la reconnaissent peut-être car elle a en effet été diffusée sur cette antenne ce matin. Mais l'émission intégrale va plus loin. Dans une seconde partie, nous avons reçu la sociologue Sarah Gainsburger, spécialiste de la mémoire collective, et l'enseignante d'histoire Joëlle Alazard, présidente de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Leur discussion a permis d'éclairer les enjeux qui accompagnent ce moment mémoriel. Car il faut préciser, Elsa, que la mémoire n'est pas l'histoire. La mémoire est une représentation d'un événement du passé, une façon de se positionner au présent vis-à-vis du passé. L'émission permet donc, à travers ces deux parties distinctes, de comprendre qui était l'homme, Marc Bloch, l'historien, le résistant, le juif persécuté et ce que sa panthéonisation inscrit dans la mémoire nationale. Mais l'émission propose quelque chose de plus. Ces deux moments d'analyse par des spécialistes de l'histoire et de la mémoire sont ponctués par deux lectures de textes de Marc Bloch, textes dans lesquels l'historien évoque sa judéité. Le premier est intitulé, par Marc Bloch lui-même, « Présentation du témoin ». Il le place en amont de son témoignage sur l'effondrement de la République en 1940, qui deviendra son livre célèbre, « L'étrange défaite ». Le second texte est un de ses testaments. Au pluriel, oui, car combattant lors des deux guerres, l'homme est habitué à ce geste. Il en a écrit à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il envisageait l'éventuelle imminence de sa mort. Celui-ci a donc été rédigé à Clermont-Ferrand en 1941. Au cours de l'émission, le comédien Daniel Koenigsberg donne lecture de ces deux textes de Marc Bloch. Et voici un sentiment personnel que j'aimerais partager avec nos auditeurs. On le sait, la judéité de Marc Bloch est un sujet complexe. Mais dire cela revient à énoncer un pléonasme. Quelle judéité ne l'est pas ? Marc Bloch est issu d'une famille d'Israélites. Ce terme est aujourd'hui désuet, mais au début du XXe siècle, on désignait de cette façon les Juifs français depuis plusieurs générations, appartenant à une certaine bourgeoisie, une élite sociale et intellectuelle, pour mieux les distinguer des Juifs plus récemment immigrés et moins favorisés socialement. Israélites, donc, extrêmement patriotes de ce patriotisme propre aux Israélites, justement, laïcs, qui se marient dans une synagogue. Athée qui fait circoncire ses premiers enfants, puis refuse cette pratique pour ses derniers. Enfin, juif revendiqué, dans un seul cas, face aux antisémites. Tous ces éléments dessinent les contours de la judéité de Marc Bloch que Pierre Savy et Yann Potin ont brillamment décrit et analysé au cours de cette émission. Et tous ces éléments, parfois contradictoires ou ambivalents, ont pris un sens supplémentaire, se sont éclairés davantage encore en écoutant la lecture du testament de Marc Bloch par Daniel Koenigsberg. À travers la gravité de sa voix et la pudeur de ses intonations, le comédien nous offre une compréhension à un tout autre niveau. C'est comme si toutes les aspérités de la judéité de Marc Bloch formaient subitement un tout et que celle-ci apparaissait alors dans toute sa clarté, son évidence et son irréductible subtilité. Nous l'écoutons.
Testament de Marc Bloch. Où que je doive mourir, en France ou sur la terre étrangère et à quelque moment que ce soit, je laisse à ma chère femme ou à son défaut, à mes enfants, le soin de régler mes obsèques comme ils le jugeront bon. Ce seront des obsèques purement civiles. Les miens savent bien que je n'en aurais pas voulu d'autres. Mais je souhaite que ce jour-là, soit à la maison mortuaire, soit au cimetière, un ami accepte de donner lecture des quelques mots que voici. Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques. On les cadence pourtant, accompagnèrent vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis toute ma vie durant efforcé de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens la complaisance envers le mensonge de quelque prétexte qu'elle puisse se parer pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, je souhaiterais volontiers que pour toute devise on gravât sur ma pierre tombale ces simples mots « Dilexit veritatem ». C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fût fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne pût rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, repris pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter, étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale? Je me suis senti durant ma vie entière, avant tout, et très simplement français, attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourrie de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre, où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ses sentiments le moindre obstacle. Au cours des deux guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je en toute sincérité me rendre ce témoignage. Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Marc Bloch, Clermont-Ferrand, le 18 mars 1941.